100% d'Europe, Juliette Rangeval.
Tous les enfants et les jeunes gens, soit presque la moitié de la population du village, ont reçu une dose de vaccin mise au point par l'Institut Pasteur.
Bonjour, une émission en compagnie de l'historien Laurent-Henri Vignaud. Bienvenue à Accent d'Europe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'Antivax, la résistance au vaccin du 18e siècle à nos jours, avec la docteur Françoise Salvadori, c'est paru aux éditions Vendémiaire. Laurent-Henri Vignaud, personne ne peut nier l'efficacité des vaccins qui ont permis d'éradiquer des maladies qui étaient parmi les plus meurtrières dans l'histoire de l'humanité. Et pourtant, l'opposition aux vaccins, elle est aussi ancienne que les vaccins eux-mêmes. Pourquoi est-ce que, pour certaines personnes, c'est plus facile de se plier aux diktats des médecins sur « il faut pas fumer, il faut pas trop boire, il faut manger 5 fruits et légumes par jour » plutôt que de se faire vacciner?
L'une des raisons principales, c'est que le vaccin, c'est un geste intrusif qui cible certaines catégories de personnes qui sont pas forcément en âge de décider et de vouloir le vaccin. C'est-à-dire typiquement, la vaccination aujourd'hui, on le voit notamment dans les mouvements anti-vaccins dans les pays anglo-saxons et en particulier en Amérique du Nord, c'est un mouvement de mères refusant le vaccin pour l'enfant, au nom de la liberté d'une part de la famille et de, d'autre part de l'enfant qui ne peut pas finalement décider par lui-même. L'autre point vraiment très fort qui explique, l'hostilité de certains par rapport au vaccin, par rapport à d'autres types de médicaments, c'est qu'on administre un vaccin à une personne qui n'est pas malade. C'est quand même moins facile de recevoir une petite piqûre dans le bras que d'avaler une gélule. Mais alors en plus, le fait que ce geste intrusif qui peut être entre guillemets douloureux ou dangereux ou je ne sais quoi, se faisant auprès d'un public de gens qui n'est pas atteint de maladie, c'est une double barrière, si vous voulez.
On l'a vu beaucoup avec un vaccin en particulier, c'est le ROR, le vaccin contre la rubéole, les oreillons, la rougeole, et avec des épidémies de rougeole, mais aussi d'oreillons qui commencent à faire leur réapparition de façon massive sur le territoire européen. En 3 semaines, par exemple, l'Irlande a enregistré plus de 300 cas d'oreillons. L'île traverse une épidémie depuis un peu plus d'un an. Les oreillons, c'est une maladie qui est bénigne chez l'enfant, mais qui est potentiellement dangereuse parce que ça peut provoquer de la stérilité, de la surdité, des méningites. Il existe donc un vaccin. On va écouter notre correspondante en Irlande, Emeline Vin, parce qu'elle nous explique que cette nouvelle épidémie, elle suit un calendrier assez précis.
Si on regarde la chronologie des cas rapportés, on remarque des pics en mai, en décembre et sur les 2 dernières semaines de janvier, et des creux pendant l'été. En bref, Juliette, la maladie virale suit le calendrier universitaire. La majorité des malades, d'ailleurs, ont entre 15 et 24 ans. Pour éviter de devenir des foyers de contamination, les universités ont à plusieurs reprises contacté les élèves pour les prier de rester chez eux en cas de symptômes et de se faire vacciner si ce n'est pas déjà fait.
Emeline, comment est-ce qu'on peut expliquer cette recrudescence des oreillons chez les jeunes Irlandais?
Quand les jeunes malades avaient l'âge de se faire vacciner, l'Irlande enregistrait une chute du nombre de vaccinations. Pour les autorités sanitaires ici, la raison, c'est une polémique qui a démarré en février 98. À l'époque, le gastro-entérologue britannique Andrew Wakefield publie un article dans la revue médicale The Lancet. Il soutient que le vaccin ROR est responsable du développement de l'autisme et de certaines maladies intestinales. Le médecin tient même une conférence de presse où il dénonce un véritable scandale sanitaire. Le retentissement médiatique, évidemment, est énorme. Depuis, des contre-recherches ont été menées, la théorie de Wakefield totalement invalidée. Il n'y a aucun lien, rappelons-le, entre le vaccin et le développement de l'autisme. Mais c'est trop tard, de nombreux parents ont préféré ne pas faire vacciner leur enfant. Andrew Wakefield a été rayé de l'ordre des médecins britanniques. Il vit désormais aux États-Unis où il continue de défendre sa thèse. Il s'est récemment félicité de l'invention des réseaux sociaux, une véritable alternative, selon lui, aux médias traditionnels défaillants.
Merci Emeline, à bientôt. Laurent-Henri Vignaud, le docteur Wakefield, c'est lui qui est à l'origine de cette polémique. C'est un médecin. Comment est-ce qu'un médecin peut devenir anti-vaccin? C'est quelque chose qu'on voit beaucoup.
Non seulement c'est quelque chose qu'on voit, mais c'est quelque chose qui a toujours existé. C'est-à-dire que les premiers opposants au vaccin étaient des médecins. Avant la pratique vaccinale, il existait une forme qu'on pourrait dire archaïque de vaccin qu'on appelait l'inoculation concernant la variole et qui consistait en fait à communiquer le virus de la variole directement grâce à une petite incision sur la peau. Et une partie des médecins qui pratiquaient cette inoculation ont refusé l'invention du docteur Jenner de la vaccination elle-même qui consistait pour le coup cette fois-ci à importer une maladie bovine proche, cousine en fait de la variole humaine, pour immuniser les humains contre la variole. Et il y a eu plein d'arguments, entre autres arguments, le principal étant que c'était dangereux de faire passer du sang ou de l'humeur, comme on disait à l'époque, animale dans un corps humain. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que dans les premiers siècles, le siècle et demi des pratiques vaccinales, c'est qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne connaît pas les règles et le fonctionnement du système immunitaire. Et par conséquent, pendant toute cette période, il y a des théories, si on veut, médicales alternatives. La vaccination est une pure pratique. Ceux qui la pratiquent ne peuvent pas, d'une certaine manière, la justifier. Enfin, en tout cas, ne peuvent pas expliquer pourquoi ça marche. Ils peuvent juste dire ça marche. Et ceux qui la combattent, eh ben, élaborent toutes sortes de théories pour dire que c'est un faux-né, que ça marche pas si bien, que ça peut être dangereux, etc.
Et ça, ça n'a jamais disparu.
Et ça n'a jamais disparu, malgré la naissance de l'immunologie, malgré les progrès accomplis dans le domaine de la protection vaccinale à partir de l'époque Pasteur. Parce que pendant un siècle, il n'y avait que le vaccin contre la variole, donc finalement, c'était une sorte de procédé miraculeux. Mais à partir de l'époque de Pasteur et d'autres chercheurs en Europe, en Angleterre ou en Allemagne, on commence à produire des vaccins pour d'autres maladies. Donc à partir de là, le discours médical anti-vaccin va d'une certaine manière se marginaliser et aussi se radicaliser. Ce que l'on trouve beaucoup plus fréquemment, c'est la méfiance à l'égard de l'industrie pharmaceutique. Et ce qu'il y a derrière, là, c'est la peur d'un empoisonnement. Donc c'est la peur d'un vaccin qui n'est pas bien conçu. Et Wakefield, il s'est inscrit, il a été en quelque sorte le champion, le leader pendant un temps autour donc du fameux ROR qu'on appelle en Angleterre MMR, de ce courant-là. C'est-à-dire le vaccin, certes, est efficace, mais il est aussi dangereux, il provoque de l'autisme. Donc ça, c'était la thèse qui depuis a été réfutée. Et pour bien situer le personnage, il faut savoir que Wakefield, au moment où il publiait ses travaux sur la dangerosité du combiné rougeole-rubéole-oreillon, il était en train de faire breveter son propre vaccin.
Alors, vous l'avez mentionné, dans les oppositions à la vaccination, il y a le fait d'inoculer une humeur animale, des substances étrangères. En Turquie, comme ailleurs en Europe, aux États-Unis, le mouvement anti-vax gagne du terrain. La quasi-totalité des scientifiques s'accordent à dire que les vaccins constituent la meilleure arme face à des infections mortelles, mais le pays est lui aussi confronté au retour de certaines maladies, notamment là aussi la rougeole. La chambre des médecins tire la sonnette d'alarme. À Istanbul, on retrouve Anand Loer.
Allô?
Au bout du fil, une jeune maman déboussolée. Il y a une quinzaine de jours, Hulya, une Turque de 37 ans qui vit sur la côte Égéenne, a consulté un médecin homéopathe dans l'espoir de soulager les maux de ventre de son fils de 2 mois. Mais l'homéopathe en question lui a prodigué un autre conseil auquel Hulya ne s'attendait pas. Il lui a recommandé d'arrêter de faire vacciner son petit garçon.
Il m'a dit de faire confiance à la nature, que mon enfant allait constituer son système immunitaire tout seul. Il m'a dit aussi qu'il recevait de jeunes patients que les vaccins avaient rendus malades. Il m'a parlé de lien entre les vaccins et l'autisme et m'a cité le cas d'un patient atteint de diabète depuis un vaccin reçu à l'âge de 2 ans.
Hulya, qui n'a pas l'intention d'appliquer ses conseils, oscille entre colère et culpabilité. Car l'homéopathe s'est aussi permis des remarques sur son premier fils âgé de 6 ans.
Le ton est monté quand il m'a dit que les vaccins étaient sans doute responsables de l'hyperactivité de mon grand garçon. C'est très dur à entendre.
L'anecdote est extrême, mais elle met le doigt sur un phénomène qui prend de l'ampleur en Turquie. Comme ailleurs en Europe et aux États-Unis, le discours anti-vaccin s'est libéré ces dernières années dans la bouche d'une poignée de médecins et surtout de certains parents. Le professeur Mehmet Vural, pédiatre à Istanbul, exerce depuis 25 ans. Il confirme que le phénomène était inconnu au début de sa carrière, tout en soulignant qu'il reste aujourd'hui très minoritaire.
Ça m'arrive, mais c'est encore quand même très rare. Il faut savoir qu'en Turquie, tous les ans, il y a 1 350 000 enfants qui naissent. Donc, quand vous comparez les familles qui ne veulent pas vacciner et puis le nombre d'enfants qui naissent tous les ans, c'est quand même encore très, très peu. Généralement, ce sont des familles qui refusent aussi de toutes sortes de médicaments aussi pour les enfants. Donc, pas de médicaments, pas de vaccins, loin de l'industrie pharmaceutique.
Ce qui inquiète ce médecin et ses confrères, c'est que les statistiques progressent vite. En 2010, seules 183 familles turques avaient refusé de faire vacciner leur enfant. En 2016, elles étaient 11 000, puis 23 000 l'année suivante, en 2017. Les chiffres officiels ne vont pas au-delà, mais la Chambre des médecins d'Istanbul estime qu'ils dépassent désormais les 40 000 familles chaque année. Lorsqu'il fait face à un tel cas, le pédiatre Mehmet Voral rappelle aux parents l'utilité des vaccins.
Ah, j'essaie d'expliquer de toute façon que c'est nécessaire. On a vu, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on a vu des enfants qu'on perdait à cause de tétanos néonatal, par exemple. On ne voit plus. La rougeole, les nouveaux médecins ne connaissent pas la rougeole parce qu'on ne voit pas de rougeole. Mais ça commence petit à petit de nouveau. Donc si on commence à ne pas vacciner contre le tétanos, la rougeole, sûrement ça va tomber de nouveau des patients graves, mortels.
La rougeole. En Turquie aussi, cette maladie qu'on pensait quasiment éliminée grâce à la vaccination a ressurgi ces dernières années. 9 cas seulement en 2016, contre 84 en 2017, 716 en 2018 et 2719 sur les 10 premiers mois de 2019. Un tiers des malades sont des enfants de moins d'un an. À Istanbul, la Chambre des médecins dénonce un lien jugé incontestable entre résurgence de la rougeole et discours anti-vaccin. Le docteur Recep Koç, l'un de ses membres dirigeants, énumère les raisons variées qui poussent certains parents à rejeter ce vaccin et d'autres.
Alors vous avez ceux qui avancent des raisons religieuses, des confréries qui prétendent que les vaccins, puisqu'ils sont importés de l'étranger, provoqueraient l'infertilité dans le but d'empêcher l'augmentation du nombre de musulmans, ou alors qu'ils contiennent du porc. Et puis, vous avez un autre groupe, très différent, qui lui prône un retour au naturel. Ils accusent les vaccins de contenir des produits dangereux, comme le mercure, les sels d'aluminium, etc.
Parmi toutes ces raisons, ce médecin de famille qui exerce dans un quartier conservateur dit avoir principalement affaire à des refus d'ordre religieux. Mais quel que soit le motif avancé, Recep Koç constate qu'ils ont souvent une source similaire, les réseaux sociaux, où les discours anti-vaccins importés de l'étranger trouvent un certain écho et un terrain de propagation, et ce dans des couches pourtant très diverses de la société turque. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les principaux vaccins, une dizaine, ont beau être gratuits en Turquie, aucun d'entre eux n'est obligatoire, y compris avant l'admission de l'enfant en collectivité, notamment à l'école. En 2015, la Cour constitutionnelle a constaté ce vide juridique et a jugé que la décision de faire vacciner un enfant revenait à ses parents. Le pédiatre Mehmet Voral considère qu'il est temps de passer à un système contraignant.
Comme il n'y a pas de sanctions, il y a des familles qui s'échappent. Donc à mon avis, il faut sortir des lois pour éviter que l'enfant ne soit pas vacciné.
Pour l'heure, il n'en est pas question. Face au retour de la rougeole, le ministère de la Santé a avancé de 12 à 9 mois l'âge de la première piqûre contre cette maladie, sans pour autant la rendre obligatoire. Recep Koç de la Chambre des médecins d'Istanbul exhorte lui aussi le gouvernement à imposer la vaccination. Il a une théorie sur les raisons qui l'en empêchent.
Nous sommes dans un pays où une loi peut être votée en un jour. Ce serait très simple de faire passer un tel texte. Il y a 3 ans, le précédent ministre de la Santé avait préparé un projet de loi qui imposait la vaccination. Il a été enterré. À mon avis, si le pouvoir ne bouge pas, c'est qu'il ne veut pas se fâcher avec les confréries religieuses anti-vaccins.
La Chambre des médecins appelle les autorités à lancer d'urgence une campagne nationale pour rappeler aux Turcs l'importance de se faire immuniser et surtout de faire immuniser les plus jeunes.
Laurent-Henri Vigneault, je vous ai vu réagir pendant ce reportage d'Anne Andlauer. On retrouve les caractéristiques de ceux qui s'opposent à la vaccination dans ce reportage en Turquie.
C'était très intéressant parce qu'il y avait tout. Il y avait tout et surtout les différentes tendances contemporaines aujourd'hui qui peuvent avoir d'ailleurs des sources historiques. Et quand on a parlé tout à l'heure de ces médecins qui se mettent un petit peu en dissidence de la doctrine, si on peut dire ça comme ça, vaccinale, on a eu mention dans ce reportage des homéopathes. Et donc l'argument naturaliste, ce qu'on appelle dans le livre l'argument naturaliste, est toujours très fort. C'est-à-dire, c'est l'argument de la pollution. Le vaccin est une pollution de l'organisme et moins on administre en fait de médicaments ou de produits entre guillemets chimiques aux enfants, mieux ils se portent. Avec l'idée donc chez certains même qu'il faut avoir les maladies pour pouvoir renforcer le système immunitaire.
Dans votre livre Antivax, la résistance au vaccin, vous racontez aussi que les personnes qui sont contre la vaccination ont parfois d'assez bonnes raisons. Et dans ce reportage, on l'entend, rendre la vaccination obligatoire, est-ce que c'est une bonne façon de faire vacciner toute une population? Est-ce qu'il ne faut pas demander aux gens quand même leur avis? On l'a vu au cours du 19e siècle peut-être, avec les populations qui étaient vaccinées de manière obligatoire dans les colonies, quand on voyait les femmes qui étaient vaccinées aussi sans qu'on leur demande leur avis. Est-ce que ça, c'est pas une raison de l'opposition si forte?
Le problème, c'est que la logique vaccinale, c'est une logique de troupeau. C'est-à-dire que pour qu'un vaccin soit efficace, il faut une large couverture, il faut que le maximum de gens soient vaccinés, notamment dans le cas, c'est le cas pour la rougeole, de maladies extrêmement contagieuses. Or, cette logique de troupeau, elle entre en contradiction avec nos principes démocratiques de liberté individuelle. Donc c'est toujours un équilibre très délicat à trouver. Les gouvernants se trouvent coincés entre la responsabilité qui consiste à essayer de faire le moindre nombre de morts possible et le fait de respecter les croyances, hein, puisqu'il a été question aussi dans le reportage sur la Turquie, des croyances religieuses qui constituent un des arguments anti-vax, même si c'est pas l'argument dominant, donc la nécessité de respecter ces libertés individuelles. Et alors, pour répondre directement à votre question, quand on regarde en Europe, il y a des pays où il y a une obligation, il y a des pays où il n'y en a pas, et on trouve à peu près les mêmes taux de couverture. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut obtenir, je ne dis pas peut-être partout, mais en tout cas, on peut obtenir avec certains peuples ou avec certaines sociétés une couverture très importante sans obligation.
Et ça passe par quoi?
Ça passe par l'information. C'est-à-dire que ce sont généralement les pays du Nord dans lesquels les familles ont une conscience morale très élevée, une pensée aussi de l'autre. C'est pas des sociétés ultra-individualistes ou égoïstes. Et donc ça suppose en fait de pouvoir se projeter et de respecter en fait un certain nombre de principes sociaux de protection mutuelle. Et de la part de l'État, ça passe par une information honnête, précise, notamment sur ce qu'on a un peu oublié ces derniers temps, c'est-à-dire la dangerosité elle-même des maladies qu'on ne perçoit plus en fait dans le quotidien.
Ça me fait aller en Ukraine avec notre correspondant Sébastien Gobert, parce que c'est un pays où les anti-vaccins sont particulièrement puissants. Et là, c'est une question de confiance dans l'État qui provoque cet état de fait.
La méfiance d'une grande partie de la population trouve ses causes profondes dans les dysfonctionnements du système de santé publique post-soviétique. Les achats, les distributions dans les régions ou encore la chaîne du froid de préservation des vaccins ont connu de sérieuses complications depuis 1991. En 2008, un adolescent est mort après avoir été inoculé contre la rougeole et la rubéole. Le scandale a provoqué une chute d'autant plus nette du taux de vaccination. La corruption dans les achats publics, la méfiance vis-à-vis des autorités et des entreprises pharmaceutiques n'a pas aidé à inverser la tendance ces dernières années. Beaucoup de docteurs et de personnels soignants ont aussi perdu leur sensibilité au vaccin, par manque de moyens, mais surtout par manque d'informations. On trouve ainsi de nombreux médecins dans des zones rurales qui déconseillent eux-mêmes le recours au vaccin. La situation pourrait être en train de changer. Face à la prolifération d'épidémies ces dernières années, grâce à une politique volontariste du gouvernement et à une amélioration de l'approvisionnement en produits médicaux, le taux de vaccination remonte progressivement.
Laurent-Henri Vigneault, l'Europe s'inquiète aujourd'hui d'un nouveau coronavirus arrivé de Chine. Est-ce que cette maladie très visible, ça va provoquer un afflux des gens vers la vaccination? Est-ce que quand on voit la maladie, finalement, on se vaccine contre elle?
Oui, ça a des ruées vers le vaccin, on en a connu. Ici, la difficulté, c'est que le vaccin n'est pas encore au point. Ce qui est intéressant, c'est de voir finalement les mesures prises par les Chinois actuellement, par les autorités chinoises, sont les mesures prophylactiques classiques, c'est-à-dire l'isolement, la mise en quarantaine, le cordon sanitaire, qui peut être tout à fait efficace. Voilà.
Très bien, merci beaucoup Laurent-Henri Vigneault. Je rappelle le titre de votre livre, Antivax, la résistance aux vaccins du 18e siècle à nos jours, écrit avec Françoise Salvadori, c'est aux éditions Vendémiaire. Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot et Élodie Demanger. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux. À bientôt. Autour de la